Dans quelques instants, avec Bruno Eppel, on se demande si Johnny Manziel va venir jouer pour les Alouettes. Tout indique que oui, mais en même temps, il n'était pas présent à la soirée de promo il y a une semaine et demie, même s'il était en ville à Montréal. Alors, ça soulève des questions. C'est pas le seul sujet que nous allons aborder avec lui, mais d'entrée de jeu, pour cette dernière demi-heure de l'édition écourtée des amateurs ce soir, accueillons, il est en direct de Nashville, lui aussi, du site athlétique.com, Marc-Antoine Godin. Bonsoir, Marc-Antoine.
Bonsoir, Mario.
Alors que nos yeux seront rivés vers les nouveaux venus des Canadiens, question de voir, en tout cas, ceux qui seront dans l'alignement ce soir, là, sur le quatrième trio, question de voir quel impact ils peuvent avoir pour l'équipe. Tu t'es interrogé dans ton dernier article sur athlétique.com sur... c'est intriguant de voir si Marc Bergevin va aller chercher d'autres renforts. Ron demandait à Claude Julien, si t'as du renfort dans le top 4 défense, dans ton top 6, crains-tu pour ta chimie? Mais on ne sait pas s'il va venir du renfort de ce côté-là, mais les statistiques avancées nous prouvaient récemment, en tout cas pour ce que ça dit, que le duo Mété-Weber, dans les paires de défense qui ont joué 400 minutes et plus dans la Ligue, tourne au sommet des statistiques par rapport au différentiel but marqué contre toi ou pour ton équipe. Alors, qu'est-ce que ça t'envoie comme message, toi, Marc-Antoine?
Bien, principalement, ce que ça m'envoie comme message, c'est que Victor Mété, en dépit du fait qu'il commet encore des erreurs et qu'il est loin d'avoir du jeu parfait sur la glace, en est arrivé quand même à un niveau où, à mon sens, il est un peu plus qu'une solution de rechange aux côtés de Shea Weber. On s'est posé beaucoup la question en début de saison à savoir qui allait être le fameux partenaire régulier de Weber. Et Mété semble de plus en plus s'imposer, parce que entre autres à cause de la complémentarité de son jeu avec Weber, je te dirais. Ce qui est intéressant avec Mété, c'est que il y a beaucoup été question du fait que depuis son retour de Laval, il joue avec plus de confiance. Mais la confiance chez lui, ça se traduit principalement par... Son habileté à transporter la rondelle, à patiner vite et à aller appuyer l'attaque. Et quelque chose que Weber fait, ne fait pas très souvent.
Non.
Par contre, alors, ce duo-là...
Qui aide le plus à l'autre, selon toi, Marc-Antoine? Qui profite le plus de la présence de l'autre?
Ben, je crois que c'est quand même Mété qui profite le plus de la présence de Weber. On ne se le cachera pas. Weber est quand même un défenseur qui lui est supérieur, mais à mesure qu'ils jouent ensemble de plus en plus, je pense qu'il y a une compréhension. Je pense que Weber saisit quelles sont les forces de Mété, quelles sont aussi les lacunes, les endroits où il a besoin le plus de soutien, puis il s'ajuste. Et ensemble, ce qui est intéressant, c'est qu'écoute, depuis le début du mois de janvier, ils sont sur la glace pour beaucoup de buts du Canadien. Mété est sur la glace. Il n'y a personne qui a été sur la glace pour le plus de buts du Canadien à 5-5 que Mété depuis le 1er janvier. 13 buts pour
vraiment
5-5.
Une stat intéressante.
Seulement 4 buts contre. Donc, tu sais,
même s'il n'est pas capable d'acheter un but, malgré des bonnes chances quand il se pointe dans l'enclave.
Oui, absolument. Des belles. Écoute, il est, en termes de chances de marquer, il est celui qui domine également chez le Canadien. Il n'arrive pas à bout d'acheter un but. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, même les soirs où est-ce que des fois tu dis, oh là, on les sent un petit peu plus ensevelis dans leur zone, ils réussissent à maintenir finalement cet équilibre-là, faire pencher l'aiguille du côté positif. Ça, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, tu sais, on peut dire, oh ben là, ils ont été chanceux, mais Mété, quand t'as pas encore marqué de but dans la Ligue nationale après 94 matchs, on peut difficilement dire que c'est la chance qui t'a mis là. Au contraire, à un moment donné, la chance va faire en sorte qu'il va finalement le marquer son premier but.
Et donc, tu serais tenté ou tu penses que Marc Bergevin pourrait être tenté de regarder ailleurs? Parce que Claude Julien répondait à Ron, tu sais, en voulant dire, on peut pas dire non, là, si on améliore l'équipe sans faire en sorte de susciter davantage d'attente, là. Ouais. Mais tu penses que si on allait chercher un défenseur gaucher, c'est pas nécessairement Mété qui changerait de paire?
Non, mais c'est ça. C'est parce qu'on a tellement pensé qu'il fallait trouver un défenseur top 2 pour jouer avec Weber. Quand tu regardes à ce temps-ci de l'année, trouver un défenseur de premier duo, ça coûte très cher. Puis je pense pas que le Canadien va se déplumer, surtout pas cette année, pour se départir d'actifs importants pour pouvoir aller chercher quelqu'un pour jouer avec Weber. Là où le Canadien peut s'améliorer, je pense, de façon assez significative, sans que ça lui coûte trop cher, c'est de trouver un défenseur supérieur à Mike Riley pour jouer avec Jeff Petrie. Parce que, écoute, Riley, on peut dire, en ce moment, il joue sur un deuxième duo, donc c'est un défenseur top 4. Mais dans les faits, c'est probablement plus un cinquième, sixième défenseur. Essayer de trouver un défenseur gaucher qui est supérieur à Riley, ça coûterait pas mal moins cher, à mon avis, que d'essayer de trouver un défenseur vedette pour compléter l'image qu'on se fait d'un premier duo. Donc, même si tu réussis à bien équilibrer tes duos et à dire, mm-hmm, on va garder Mété avec Weber, puis on va chercher du renfort au sein du deuxième duo, le Canadien, sans dépenser une fortune, pourrait réussir à améliorer sa ligne bleue sensiblement.
Moi, je suis bien curieux de voir qui va sortir de l'alignement quand on va décider de faire une place à Follin. Et c'est peut-être les prochaines performances qui vont le dicter. Mais ouais. Si on prenait une décision de la lumière de ce qu'on connaît de chaque joueur, qui est le défenseur gaucher le plus susceptible d'être sorti de l'alignement entre Kulak, Mike Riley, Jordy Benn, qui a une bonne saison dans l'ensemble, ouais, Ben?
Absolument. Ben, écoute, je pense que Ben est supérieur du côté droit par rapport au côté gauche. Il est plus à l'aise de ce côté-là. Mais dans l'évaluation du Canadien, ça demeure quand même le défenseur qui est le plus apte à passer d'un côté à l'autre. Alors, pour répondre à ta question, je pense que, encore une fois, je crois que si le Canadien cherche absolument à faire une place à Christian Follin, c'est Riley qui est coprès parce que tu pourrais aisément envoyer Ben ou encore Kulak sur un deuxième duo et rentrer Follin à droite sur le troisième duo. Follin qui est un défenseur de plus gros gabarit, expérience, c'est un gars qui est peut-être un petit peu moins à risque dans son territoire, mais il n'y a rien de flamboyant dans son jeu. C'est pas un gars qui est vraiment dynamique dans la relance de l'attaque ou quoi que ce soit.
Mais c'est dire que Kulak aurait gagné ses épaulettes en quelque sorte.
C'est la constance, Mario, dans le cas de Kulak qui est assez étonnante depuis son acquisition.
Très combatif très, aussi très pour les régulier. Sorties de zone, je trouve. Hein?
Oui, absolument. Et puis, c'est pas un gars qui fait trop de fla-fla. Il essaie pas des choses qui sont en dehors de ses capacités. Mais je trouve que c'est une très agréable surprise. Lui donner du galon un peu plus, ce serait peut-être risqué, mais dans la chaise, comme on dit en langage de hockey, dans la chaise qu'il occupe actuellement, je trouve qu'il fait du très, très bon travail. Et la régularité, la constance, c'est une valeur extrêmement importante aux yeux des entraîneurs. Alors, quand tu as un défenseur qui te donne ce que l'entraîneur recherche soir après soir, il va être tenté de le garder dans son alignement.
Je garde les Prédateurs de Nashville comme dessert. Je ne sais pas quelle est l'évaluation que fait David Poile, le grand patron des Prédateurs de son équipe. Je ne trouve pas qu'ils affichent la mine actuellement d'une équipe qui s'en va gagner la Coupe Stanley dans 2 mois et demi d'ici. Maintenant, c'est l'opinion du boss qui compte. Il est allé chercher Brian Boyle pour le planter devant le filet pendant les avantages numériques, le pire avantage numérique de la Ligue, pire que celui du Canadien. Mais quand il dit ouvertement qu'il est prêt à encore dépenser, est-ce que les Prédateurs deviennent l'équipe la plus susceptible d'aller chercher Panarin, selon toi? Est-ce qu'on en parle là-bas?
Écoute, je sais qu'à travers
la Ligue nationale... Ils ont déjà transigé ensemble, d'ailleurs, ces deux organisations-là.
Dans le cas de Ryan Johansson et puis Seth Jones, tu as bien raison. On entend beaucoup les rumeurs liant Panarin aux Prédateurs, mais moi, ce que je me suis fait dire ici, c'est que les Prédateurs n'étaient probablement pas l'équipe la mieux équipée pour pouvoir répondre aux demandes des Blue Jackets. Parce que tu regardes ce qu'ils ont à l'heure actuelle, à offrir. Si les Blue Jackets veulent de l'aide immédiate, c'est ça qui est problématique parce que les Prédateurs, eux autres, ils vont pas vouloir déshabiller Paul pour habiller Jacques. Leur fenêtre, c'est en ce moment. T'sais. Alors, tu regardes dans leur réseau mineur, ils ont un défenseur Dante Fabro qui est intéressant. Ils ont l'attaquant Eli Tolvanen. Ça, c'est des morceaux que tu peux bouger, sauf que c'est assez limité. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de tout chambranler pour pouvoir insérer Panarin? Je comprends l'idée qu'ajouter un petit peu plus, une
touche supplémentaire... Ils n'ont pas une grosse attaque. À 5 contre 5, ils se débrouillent bien, mais tu sais, quand tu regardes leur avantage numérique, c'est sûr qu'ils doivent penser à un scénario comme ça, Marc-Antoine, non?
Oui, mais sauf que moi, en tout cas, j'ai regardé beaucoup durant la semaine de congé du Canadien, ce qui ne fonctionnait pas avec l'avantage numérique du Canadien.
Oui.
Et j'ai réalisé qu'à la grandeur de la Ligue, les équipes qui se fient beaucoup sur les tirs de la pointe pour pouvoir marquer des buts sont souvent celles qui ont le plus de difficultés. Tandis que celles qui vont chercher des attaquants pour tirer au filet, ceux qui ont les équipes par exemple qui ont trois attaquants comme tireurs qui tirent le plus souvent en avantage numérique, c'est des équipes qui sont beaucoup plus menaçantes. Les Prédateurs, eux autres, ils se fient beaucoup sur Romagnosi, beaucoup sur Piqué Subban pour pouvoir envoyer la rondelle au filet. Et puis, c'est une stratégie qui fonctionne de moins en moins. Alors, oui, amener Panarin, ça aiderait, mais tu sais, un gars comme Wayne Simmonds, qui est moins efficace à 5 contre 5, qui en a beaucoup perdu, c'en est un autre gars quand même qui peut aider aussi en avantage numérique.
Je me demande s'il n'est pas surévalué, Simmonds, mais on le verra, qu'est-ce qui pourrait amener à l'équipe qui irait le chercher. Hein. Oui, il a ralenti. Je pense que souvent, quand on parle d'un joueur, on a dans notre tête les faits saillants de ses meilleurs moments qui défilent nécessairement parce que nous ne sommes pas sûrs, quand une transaction survient, qu'ils viennent de passer 3 semaines à épier chacun de ses gestes. T'sais. Fait que tu te souviens souvent des flashs, des beaux flashs de quelqu'un. Comme d'ailleurs, on se souvient des beaux flashs de Dale Weiss.
Écoute, j'ai bien hâte de voir... on se souvient des flashs de Dale Weiss à Montréal parce qu'il a beaucoup joué avec David David Desharnais et Max Pacioretty. Ça a beaucoup aidé sa production. Là, il revient à Montréal dans un contexte de quatrième trio. Je pense pas que les gens devraient s'attendre à ce qu'il y ait une production de 12-14 buts par année,
comme
il le laissait entrevoir à l'époque, là. Mais ce qui est important, ce que le Canadien va rechercher, c'est d'avoir un gars qui est responsable dans sa zone, qui patine vite et puis qui est bon en échec avant.
Eh bien, Marc-Antoine, c'était vraiment intéressant. Puis, on va regarder ça, les avantages numériques des deux équipes ce soir. On compétitionne pour sortir des bas-fonds. Alors, à bientôt. Merci, mon cher.
Merci, Mario.
Bye-bye. Athletic.com, c'est là que vous pouvez lire Marc-Antoine Godin. Voilà, dans quelques instants, du football au menu avec notre ami Bruno Eppel qui célèbre son anniversaire, d'ailleurs, ce soir. À tout de suite!